Ésaïe, chapitre 9, verset 1er. Il y a 15 jours, nous avions parlé des cadeaux que les mages ont apportés, que les scientifiques, que ces gens qui ont été guidés par une étoile ont amené à Jésus, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et puis, nous avons également évoqué tout ce que Dieu pouvait apporter dans chaque vie, dans chaque cœur. Et là, j'avais envie de revenir sur le fait que Noël, c'est vraiment, vraiment la délivrance. Dans Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 1er, il est dit ceci. Oh, on va même lire chapitre 8, verset 23, le dernier verset du chapitre 8. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et le verset qui nous intéresse, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. » J'aimerais que l'on retienne de Noël les noms qui ont été attribués à Jésus, parce que ce dernier verset que je viens de lire, il va être repris dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, alors que Jean-Baptiste a été arrêté et que Jésus va commencer réellement son ministère. Il nous est dit qu'il va venir s'installer à Capernaum. Et il va s'installer précisément dans une des villes du territoire de Zabulon et de Nephtali. Il va s'installer là, et il va s'installer dans cet endroit-là, exprès, pour que cette prophétie soit accomplie. 700 ans plus tôt, on a annoncé que le Messie viendrait et qu'il apporterait la lumière là où il y a des ténèbres, et c'est ce que Jésus a fait. Vous remarquerez également qu'il est dit ceci, « Le territoire des gentils, c'est-à-dire des païens, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Je crois que quand Jésus est venu sur la terre, le monde a changé, j'en suis persuadé. D'ailleurs, hier soir, à Bethléem, territoire palestinien, à Bethléem, beaucoup de gens se sont rassemblés dans l'église de la Nativité, parce que c'est prétendument là que Jésus serait né, que ce soit là, que ce soit à 50 mètres à côté ou à quelques centaines de mètres plus loin, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il soit né. C'est qu'il soit venu, c'est qu'il soit venu sur la terre, et vous comprenez bien, et on fera la nuance tout à l'heure, que quand Jésus est venu, le monde a changé. Quand Jésus est arrivé sur la terre, le monde a changé, et quand Jésus est entré dans nos vies ont changé. Je voudrais qu'on célèbre cette vérité-là ce matin, le monde a changé quand Jésus est entré dans nos cœurs. Je crois que Jésus, ça restera une vérité permanente, ça restera une réalité totalement intemporelle. On ne va pas la fixer dans le temps. On ne va pas dire que ça marchait il y a 2000 ans, ça marchait il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 15 jours, lorsque je me suis engagé avec Dieu. Ça marchera toujours. Lorsque Jésus vient, il est la différence. Il ne la fait pas simplement, hein, mais il est la différence entre lumière et ténèbres. Il est la différence entre vie et mort. Il est la différence entre joie et peine. Il est la différence entre liberté et esclavage. C'est la liberté que Jésus donne au monde. Et cette prophétie, elle pointe aussi finalement un futur règne, le règne de Christ. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Vous savez, comme moi, que dans pas longtemps, dans peu de temps, lorsque Jésus reviendra, vous savez comme moi qu'à partir de ce moment-là, il régnera. Et nous, nous régnerons avec lui. En attendant, nous vivons ces choses-là par la foi. Nous sommes assis par la foi dans le ciel. Pour l'instant, nous sommes là. Nous attendons la grâce, la bénédiction de Dieu. Mais en attendant, assurez-vous quand même que son autorité, assurez-vous que sa présence s'exerce dans vos cœurs et dans vos vies comme une réalité puissante. Je crois que c'est bon de laisser Jésus être pour nous tout ce que ses noms proclament. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Laissons ces noms être une bénédiction sur nos vies. Alors, j'y reviens assez rapidement. La première chose qu'il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il faut quand même se souvenir que Jésus, le Fils de Dieu, n'est pas venu au monde il y a 2000 ans. Un enfant est né, mais il est précisé, un fils nous est donné. Ça sous-entend que le fils existait déjà. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'il vit de toute éternité. Donc le monde a reçu la bonne nouvelle quand Jésus est venu sur la terre. Il s'est incarné, mais il existait déjà. Il s'est incarné. Il reste malgré tout celui qui règne et qui régnait depuis toujours et qui régnera toujours. Quand il est dit « un fils nous est donné », et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Dans nos Bibles second, c'est peut-être dans nos Bibles second qu'il est traduit, on va dire, le moins littéralement possible. Le moins littéralement, parce que derrière ce mot admirable, on aurait pu traduire merveilleux. Merveilleux. On aurait pu traduire miraculeux. C'est un miracle. C'est une chose merveilleuse. C'est une chose formidable. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera formidable, miraculeux, une chose miraculeuse. Il y a le même mot qui revient dans d'autres passages de l'Écriture. Dans le livre de l'Exode, par exemple, quand il y a eu la traversée de la mer Rouge et qu'on a chanté un cantique, Moïse a chanté un cantique, et il dira ceci, « Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi ?» Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Prodiges, opérant des prodiges, miraculeux. C'est la même chose. Quand vous regardez Jésus, quand vous considérez ce Jésus qui vous a sauvé, c'est un Jésus miraculeux. C'est un Jésus puissant qui est capable de faire des prodiges et des miracles. Dans les psaumes 77, par exemple, et verset 11, verset 12, pardon. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Psaume 88 et verset 11. « Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? » Non, bien sûr. « Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Et ta justice dans les terres de l'oubli? » Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin, ma prière s'élève à toi. Ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants que Dieu fait des miracles. Et chapitre 89, enfin, verset 6, « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?» Je crois que lire et relire les histoires miraculeuses des évangiles, saisir par la foi, expérimenter les merveilles, toutes les merveilles extraordinaires, toutes ces merveilleuses grâces que Dieu accomplit aujourd'hui, nous rappellera qui nous a sauvés et nous rappellera ce qu'il a fait pour nous. Admirable, conseiller, Jésus, c'est celui qui peut vous éclairer, c'est celui qui peut vous guider, c'est celui qui peut vous inspirer. C'est celui, littéralement, qui peut délibérer sur votre cas. Quelquefois, on se pose des questions, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, comment je dois réagir. Le seul qu'il faut consulter, c'est lui. Le seul qui a la solution, c'est lui. Le seul qui connaît exactement la solution, c'est lui. En fait, c'est le suprême conseiller, c'est la vie qui est supérieure. Quelquefois, on a demandé des avis aux uns et aux autres et ils nous ont aidés. Mais le seul qui sera d'un avis parfait, c'est Dieu. Personne ne peut contester ses choix. Souvenez-vous que les choix de Dieu sont parfaits. Souvenez-vous que Jésus voit plus loin que nous. Il analyse bien mieux que nous. Il anticipe plus vite que nous. Et je crois qu'il fait le bon geste plus souvent que nous. Nous, on a du mal à anticiper, on ne voit pas très loin. On fait le mauvais geste, on se précipite. On n'a pas bien analysé la situation. Lui, il voit exactement comment il faut réagir. Alors, au plus, il vous inspire. Et au mieux, vous vous sortirez de vos peines, de vos tracas et de vos difficultés. Et puis, il nous est dit que c'est un Dieu puissant. La traduction plus précise dit qu'on aurait pu dire qu'il est le champion. J'aime bien cette formule. C'est le champion. Je connais quelqu'un qui, à chaque fois qu'il vous voit, il vous dira « Alors, comment tu vas, champion ?» Ça fait drôle, hein ? On n'a pas l'habitude de dire ça. Hein ouais. « Comment tu vas, champion ?» Le champion, c'est lui. Champion, c'est celui qui fait des prodiges encore aujourd'hui. D'ailleurs, littéralement, c'est le puissant tout-puissant. Ça fait un peu lourd hein, comme formule. C'est le puissant tout-puissant. Quelque part, c'est celui qui a vaincu Thomas. Thomas dira, si je ne vois pas, si je ne mets pas mes mains dans la marque de ses clous, si je ne vois pas son côté percé, je ne croirai pas. Jésus lui apparaît. Et à ce moment-là, il tombe à genoux et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a été vaincu par le puissant, tout-puissant. Il a été vaincu par le champion. Il a été vaincu par le chef, par celui qui est fort. C'est exactement ce que ça signifie. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, il nous est dit que nous sommes dans le véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Il nous est dit qu'il a souffert, 1 Timothée chapitre 3, et qu'il a été élevé dans la gloire. Hier, il y a eu la messe de minuit à Saint-Paul de Rome, et on a dévoilé l'enfant Jésus. Mais pour nous, derrière la naissance de Jésus, il y a le Rédempteur dans la gloire aussi. Il y a le Rédempteur au ciel, celui qui a tout payé, qui a tout accompli pour nous et qui règne et qui régnera pour toujours. Et puis on dit de Jésus, Père éternel. Là aussi, c'est incroyable comme ce verset a eu du mal à l'interprétation. Quand il est dit Père éternel, pour mieux le traduire, on devrait dire source d'éternité. Parce que le Père, c'est Dieu. Jésus est le Fils. On ne va pas le confondre avec le Père. Ce sont deux entités différentes, même si c'est le même Dieu. C'est la Trinité avec le Saint-Esprit. Mais vous comprenez que l'un comme l'autre existent depuis toujours. Ils sont source d'éternité. Ils sont éternels. Alors on comprend mieux que finalement, il est celui qui a planifié les choses. Nous, on vit 40 ans, 60 ans, 100 ans, 120 ans. Et puis on s'en va, on est venu, on est parti. Et puis pendant ce temps-là, on a pu faire la paix avec Dieu et notre place est décidée pour l'éternité. Soit c'est le ciel, soit c'est loin de Dieu. Mais on a fait le choix. Vous imaginez que celui qui planifie tout ça, c'est Dieu. C'est le planificateur du temps. Je ne sais pas si c'est une belle expression, mais c'est celui qui planifie toute chose. Il est dans l'éternité. C'est quand même incroyable d'imaginer que quand il meurt à la croix, il nous voit, nous, ce matin, ici. Comment on peut comprendre ça? Et quand il meurt, il dit, voilà, je le fais. Je le fais pour Johanna, pour Jérémy, pour vous. Je le fais. Je le fais. Il a tout planifié. Et il savait qu'on viendrait au monde aujourd'hui. Il savait qu'on vivrait aujourd'hui dans tel pays, dans telle circonstance, avec telle et telle limitation. Mais souvenez-vous que s'il est éternel, il est source de vie. Il est intarissable, il est sans borne, il est sans limite. Et je crois qu'il y a encore pour nous un océan de surprises à portée de vue. Dieu a de belles choses en réserve pour ses enfants. Et je conclue avec cette belle image. Il est le prince de la paix. Prince of Peace, le prince de la paix. C'est précieux de savoir cela. Il est le prince de la paix. Je me dis dans le fond que Jésus engendre la paix. Il suscite la paix, il promouvoit la paix, il inspire la paix. D'ailleurs, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et on sait très bien qu'il est difficile d'avoir de l'amour pour les autres si on n'est pas en paix avec les autres, et si on n'est pas en paix avec Dieu, et si on est encore moins en paix avec soi-même, c'est difficile, c'est difficile. Et bien que Dieu nous aide ce matin encore de nous rappeler que le jour de Noël, ça a été la vraie délivrance pour nous, la vraie délivrance. Tout a été accompli, tout a été fait, et qu'on l'appelle admirable, miraculeux, qu'on l'appelle conseiller, qu'on l'appelle Dieu puissant, le champion, le chef, celui qui est fort, qu'on l'appelle Père éternel, source d'éternité, ou qu'on l'appelle le Prince de la paix, chaque nom porte une bénédiction qu'il veut partager avec nous, chacun de ces noms-là. Alors que Dieu nous aide à repartir dans l'année qui vient, si Dieu nous prête vie, dans l'année qui vient, chargé de ses promesses, nous avons un Jésus vivant. Et notre enfant, Jésus, il a fait son parcours et il a bien grandi. Comme disait quelqu'un, quand il est enfant, tout le monde l'aime. Quand il grandit, on l'apprécie un peu moins. Mais nous l'apprécions davantage pour ce qu'il a fait. Et il est entré dans le ciel. Il nous a précédés. Il a été nous préparer une place. Et comment ne pas le louer pour cela? Comment ne pas l'acclamer? Alors que son nom soit béni, que son nom soit loué pour sa bienveillance. Il est le Dieu des Français. Il est le Dieu des Érythréens. Il est le Dieu des Malgaches. Il est le Dieu des Soudanais. Il est le Dieu, comme on le dit aujourd'hui, des chrétiens, des musulmans, etc. Comprenez bien que ce n'est pas une religion qui fait de nous un enfant de Dieu. C'est une relation avec ce Dieu-là. C'est une relation avec ce Dieu-là. Alors que Dieu bénisse le monde qui est en flammes, que Dieu bénisse le monde qui nous entoure, que Dieu bénisse tous ceux qui sont autour de nous et qui vont mal, que Dieu bénisse cette année 2017 qui s'avance et qu'on ait la joie de voir, si ce n'est pas des Français pure souche, que ce soit des gens qui nous entourent, venir à Christ, quels qu'ils soient, peu importe d'où qu'ils viennent, l'important c'est que le salut atteigne les perdus. Alors si le monde rebâtit des frontières, Dieu a permis que des gens d'ailleurs viennent chez nous et qu'on puisse les bénir, qu'on puisse leur apporter l'amour que Dieu a donné à nos cœurs. Si on a fait la paix avec soi-même, parce qu'on a fait la paix avec Dieu, alors c'est plus facile de bénir les autres, c'est plus facile d'être en paix avec les autres. Que Dieu nous aide dans l'année qui vient et que Dieu fasse de nous encore des gagneurs d'âme. Proclamez la délivrance, proclamez un Noël qui soit différent parce que Jésus règne au siècle des siècles. Amen. On se lève ensemble et on invoque son nom. Amen. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te remercier parce que ta parole est source de vie et je voudrais que on puisse revenir sur ces versets, reméditer sur ces quelques versets en nous souvenant que tu nous as tout donné. En donnant un fils, tu nous as tout donné. Quand cet enfant est né, tu nous as tout donné. Lorsque Jésus a vécu et a changé les ténèbres en lumière, a mis la vie là où il y avait la mort, a mis la paix là où il y avait la guerre, il a mis la liberté là où il y avait l'esclavage. Je te rends grâce parce que quand Jésus vient dans un cœur et dans une vie, il fait toute la différence. C'est vrai qu'il est la différence, c'est vrai qu'il change tout. Et je veux te remercier d'avoir changé notre vie, d'avoir changé notre regard, d'avoir changé nos cœurs. Merci de ta fidélité, de ta bonté. Accompagne-nous encore toute l'année qui vient, accompagne-nous toute l'année qui est devant nous et qu'elle célèbre la gloire, la bienveillance de l'Éternel. À toi l'honneur et la louange pour tes bontés. Tu nous raccompagnes dans ta paix. Et comme quelqu'un a prié tout à l'heure, toutes les familles que nous représentons, qu'elles soient bénies en ton nom. Qu'elles soient bénies en ton nom maintenant. À toi l'honneur et la gloire. Merci de ta présence. Nous t'emportons avec nous, Seigneur. Nous te serrons, nous te chérissons dans nos cœurs. Nous aimons ce que tu représentes pour nous, admirable, conseiller, prince de la paix, Père éternel. Merci, merci de ce que tu es, admirable. Pour chacun d'entre nous, à toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Allez en paix. Cette semaine, nous avons nos réunions comme d'habitude, mardi.